Matière à penser, Frédéric Borns.
Matière à penser aujourd'hui avec Florence Kemax qui fait partie du comité consultatif de bioéthique en Belgique. Philosophe dans la cité, donc Florence Kemax, qui est maître de recherche au FNRS en Belgique, en le Fonds national de la recherche scientifique belge en philosophie, à l'Université de Liège, où elle dirige un centre de philosophie politique, mais où elle exerce aussi différentes fonctions au service de la communauté, comme on dit en Belgique, dans la cité, donc, et parmi elles, le comité consultatif de bioéthique de Belgique. Bonsoir Florence Kemax.
Bonjour Frédéric Worms.
Merci d'être venu depuis Liège ce soir pour discuter un petit peu de ce lien finalement entre votre travail, on pourrait dire théorique, votre recherche philosophique menée depuis de nombreuses années, et puis depuis un peu moins d'années, à moins que vous ayez commencé tout de suite, à vrai dire je n'en sais rien, un engagement dans la cité qui prend pas les formes qu'on connaît de l'engagement de l'intellectuel seulement, en tout cas de tribune, d'intervention, mais vraiment d'engagement dans certaines institutions, et notamment donc le comité de bioéthique belge. Et donc ma première question toute simple et naïve, ce sera qu'est-ce qui vous a amené à ce type d'engagement et pourquoi aussi est-ce que les institutions de ce genre sont venues vous chercher, vous, enseignante, chercheuse à l'université de Liège?
Alors je vais répondre à la question, mais non sans souligner au passage que vous avez mentionné le fait que ce sont des modes d'engagement qui sont peut-être moins connus, surtout ils sont moins visibles. Et en même temps, ce sont typiquement des terrains sur lesquels on attend les philosophes dans les comités d'éthique, puisqu'il y a un rapport, on pourrait dire, historique très profond entre la philosophie et l'éthique. Et c'est donc là que l'on attend les philosophes. Et c'est ça qui m'a amené finalement à...
Peut-être même on attend trop d'eux, peut-être même on les attend un peu trop.
Peut-être qu'on les attend un peu trop, peut-être qu'ils y occupent quelquefois des positions dominante, ça dépend des endroits. Ils partagent le terrain avec les médecins et les juristes essentiellement, parfois aussi des collègues de sciences sociales, c'est très intéressant, ça me semble très important sur ce terrain-là. Et à vrai dire, c'est en tant que membre de la communauté universitaire, en tant que savant finalement, que moi-même, mais aussi d'autres personnes avons été recrutées pour participer à ces comités, qui sont des instances tout à fait officielles. Alors, commencer par le comité consultatif de bioéthique de Belgique,
où... Qui est national. Bilingue d'ailleurs au passage.
Qui est carrément bilingue et trilingue, puisque la communauté germanophone est également représentée. Et qui est composée sur un équilibrage qui représente à la fois la diversité linguistique, les positionnements idéologiques, puisque la Belgique est un pays qui est, comme on dit, pilarisé, c'est-à-dire où les pôles laïcs d'un côté et chrétiens de l'autre
Alors,
sont très importants.
Alors pilarisé, il va falloir m'expliquer ce mot que je ne connais pas du tout, Florence Kemax.
Alors la vie institutionnelle, sociale et politique en Belgique est très marquée par des grands clivages historiques qui passent entre, d'une part, les laïcs, ceux qui sont plutôt, des traditions et de l'idéologie, athées, et puis les autres qui sont, du monde généralement catholique. Voilà.
C'est le grand clivage.
C'est le grand clivage et ça donne ce qu'on appelle des piliers qui, en fait, soutiennent les institutions, le monde culturel, bien évidemment aussi
donc
l'école.
Donc on dit pilarisé. Non pas polarisé. On dit, finalement, c'est un peu la même chose.
Oui, et en fait,
vous qui travaillez beaucoup sur la polarité.
Oui. Et c'est effectivement polarisé et c'est, la manière dont la Belgique continue de se représenter sur les deux plans d'une représentation de soi, de l'identité de la Belgique, mais de se représenter aussi à travers ses institutions, puisque une instance comme le Comité consultatif de bioéthique de Belgique imite par quelques aspects ou par quelques-unes de ses caractéristiques un Parlement, donc... Il s'agit qu'il soit présente les différentes composantes de la société, les différentes tendances idéologiques dans la société belge.
C'est très intéressant, évidemment, Florence Kemax, puisque en France, il y a des représentants de ce qu'on appelle les familles religieuses et spirituelles.
Oui.
Mais il n'y a pas ce clivage entre, disons, le religieux et le laïc aussi clairement affiché avec le clivage linguistique. Mais avant de revenir sur ces comités, puisque vous participez non seulement à ce comité national, mais à d'autres instances, pourquoi est-ce que ce comité, est venu vous chercher, vous dites pour des raisons scientifiques, mais il y avait bien un lien, vous avez travaillé travaillait sur des questions relevant de la médecine, sur des questions de philosophie de la vie. Vous aviez des travaux en histoire de la philosophie, mais comment est-ce qu'ils ont repéré le lien avec les questions médicales, vitales, sociales, qui sont les vôtres en effet ?
Alors c'est un fait que je les avais abordés moi-même au cours de mon apprentissage de la philosophie. Je dirais que mes classes, je les ai faites avec Bergson, avec Sartre, avec Merleau-Ponty aussi dans une certaine mesure, beaucoup Foucault, Canguilhem, c'est-à-dire ces philosophes de langue française qui ont tous, d'une manière ou d'une autre, abordé la question de la vie ou de l'existence en prenant en compte la dimension de normativité qui est à l'œuvre dans l'existence ou dans la vie.
De normativité, c'est-à-dire au fond de choix, de valeurs qui font partie du vivant lui-même, qui acceptent certaines choses, qui en refusent d'autres, qui fuient des choses dangereuses, qui recherchent des... Enfin, la vie n'est pas neutre, disons.
Elle est
déjà morale, déjà orientée.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a un titre d'un manuscrit célèbre de Sartre qui a été publié récemment, qui s'appelle Les Racines de l'éthique. Et effectivement, dans ce manuscrit, par exemple, Sartre est à la recherche de ce qui, dans la vie ou dans l'existence, se présente au départ comme une polarité initiale, comme une position de valeur, qui fait la dynamique même de la vie, ce qui fait que nous ne sommes pas simplement des êtres qui réagissons de manière réflexe à notre environnement, mais qu'il y a, qui est le sens... On pourrait dire la dynamique du désir, tel que Sartre l'a comprise.
Pour lui, c'est le désir et donc aussi le rejet qui désigne les polarités fondamentales.
Alors, je dirais que ça, c'est vrai que c'est aussi une dimension importante. Elle est plus présente chez un philosophe comme Canguilhem, pour qui vivre, au fond, c'est être, pour un être vivant, c'est élaborer, construire et faire perdurer une relation à un environnement qui est non indifférent. Je dirais les choses comme ça. C'est-à-dire où, effectivement, ce qui arrive à la vie, ce qui arrive au vivant, se distribue selon des polarités, alors que le langage nous oblige à désigner en termes de bon et de mauvais, mais qui, au fond... appelle des dégradations infimes. Voilà.
C'est vrai que c'est l'une de ses définitions de la vie à Georges Canguilhem, très contemporain de Sartre, qui dit que la vie n'est pas indifférente. Et au fond, c'est même une définition. C'est-à-dire qu'on peut appeler vivant tout ce qui réagit de manière non indifférente à un milieu, à un environnement.
Oui.
Mais alors, Florence Kaymax, vous avez cité donc Sartre, par exemple, sur lequel vous avez beaucoup travaillé.
Oui.
Est-ce que Sartre aurait fait partie d'un comité d'éthique d'après vous ? Lui, Sartre, on a l'image d'un intellectuel engagé, mais en un sens non seulement extra-institutionnel, mais peut-être aussi anti-institutionnel. Peut-être c'est aussi une image qu'on a avec Michel Foucault. Est-ce que, d'après vous, vous continuez leur tradition en acceptant de faire partie d'un comité national, même si on ne dit pas exactement comme ça, de bioéthique en Belgique ?
J'ai le sentiment que continuer cette tradition est quelque chose de vraiment important, mais tout en tenant compte d'une transformation radicale du paysage social, institutionnel, qui fait le terrain de nos interventions aujourd'hui. Alors,
comment est-ce que vous la décririez, cette transformation ?
Alors, cette transformation, je pense qu'on a besoin de, différents outils pour l'analyser. Ce sont ceux de l'histoire, des sciences sociales, et ce dont nous avons besoin, c'est de faire la généalogie de la mise en éthique de nos problèmes communs, de nos problèmes publics, de nos questions sociales. Ce que, au fil de mon expérience avec les comités d'éthique, j'ai observé, c'est on pourrait dire une systématisation, une extension de l'éthique, en fait, de la mise en éthique de nos problèmes, qui va de pair avec son institutionnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'institution qui ne se dote ou qui ne s'accompagne d'un comité d'éthique auquel on confie une tâche réflexive sur les modes de l'action. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les années 50 ou les années 60, qui sont les années d'intervention
de nos ancêtres, de nos aïeux, Foucault, de nos oncles et grands-oncles, Sartre, Foucault. Mais justement, cette mise en éthique, comme vous dites, Florence Kaymax, c'est une façon de décrire ce que font ces comités d'éthique, c'est-à-dire de traiter des problèmes sociaux, politiques, dans le langage moral, avec des valeurs morales et des instances qui prétendent les encadrer, les mettre en discussion. Ça, vous le décrivez, ça vous motive, mais ça aurait pu aussi vous éloigner. Peut-être que quelqu'un comme Sartre ou Foucault, justement, aurait commencé par critiquer cette démarche de mise en éthique, comme vous dites très fortement, d'ailleurs.
Oui, je pense que les traditions critiques, les traditions de la philosophie critique ont toujours traité, disons, la question des valeurs ou le domaine des valeurs, du sens, tout ce qui relève traditionnellement de la philosophie pratique et on va dire dans la vie sociale de la morale, ont toujours été observés avec une certaine réticence. C'est-à-dire, ce qui a intéressé ces philosophes, c'était quand même la manière dont les valeurs, le langage normatif même, relèvent de l'exercice du pouvoir et a souvent été assimilé à l'une des modalités de la domination.
C'est-à-dire quand que elle ce qui se présente comme morale, en fait, ça peut masquer des intérêts politiques, des positions dominantes.
Des positions dominantes dans la société, et la morale, ou les morales, ou les valeurs, peuvent être le vecteur privilégié de l'assujettissement des dominés. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose de très fort à conserver de cette tradition, et je dirai pourquoi ensuite. Mais en même temps, il me semble aussi que chez ces philosophes-là en particulier, ceux que nous avons évoqués, comme Sartre, comme Canguilhem, comme Foucault, on a aussi des ressources pour penser la vitalité qu'il y a dans ce que la vie présente de normatif, ou comme activité normative. C'est-à-dire de résistance, précisément, à ces pouvoirs, ou en tout cas de contestation de ces pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore un reste, si vous voulez, qui doit être pensé dans la vitalité de la position de valeur ou de la position d'un sens ou de fin, par exemple, dans l'action.
Donc ce que vous pensez, Florence Kemac, c'est qu'on peut pas se contenter de critiquer le langage de la morale, même quand il est institué politiquement, au nom de son usage politique, mais qu'il exprime aussi une force vitale et critique dans le vivant, qui refuse certaines choses, par exemple, qui va s'indigner de certaines pratiques médicales ou sociales, et que ces forces-là, on ne peut pas se contenter de les écarter en disant, vous parlez moralement, vous dites que c'est pas bien, mais en fait, il faudrait juste faire de la politique et de la critique. Il faut aussi les écouter. Les comités d'éthique sont aussi là pour leur donner un espace, pour leur donner une voix. Finalement, on ne peut pas seulement les critiquer, il faut aussi les écouter.
Je pense, d'une part, que il est dangereux de mettre à l'écart ou de marginaliser les discours, les revendications et les protestations qui s'énoncent parfois en termes moraux. La deuxième chose que
Par exemple, est-ce que vous pourriez en donner une en exemple?
Alors, il me semble que
qui vous semble qu'il faut monde, écouter absolument.
Ouais. Dans le monde, par exemple, on a un courant très très fort aujourd'hui du côté de l'éthique animale ou de l'éthique environnementale, qui est discutable, qui mérite d'être discuté, mais qui peut s'énoncer au nom des droits des animaux ou des droits de l'environnement. Ça pose plein de problèmes juridiques, mais à tout le moins, plutôt que de considérer que c'est un langage purement formel, sans valeur politique, ou qui est...
Qui serait purement du côté de l'affect.
Qui serait du côté de l'affect ou du sentiment, et qui serait infrapolitique ou non politisable. Je crois qu'on doit toujours faire attention aux rapports de force dans lesquels ces revendications s'inscrivent. Et en particulier, si l'on revient au langage des droits, et en particulier pour ce qui concerne les droits humains, on doit, à mon avis, prêter attention au fait qu'il y a ce que Foucault appelait une polyvalence tactique des discours. C'est-à-dire que le discours des droits peut être un discours de moralisation, peut être un discours de dépolitisation dans certains cas, mais dans d'autres, est le seul moyen qui est donné pour pouvoir s'avancer et réouvrir une scène de conflit où un rapport de pouvoir, par exemple, ou de domination doit être mis en discussion ou contesté.
Là, on entend comme ça, de manière indirecte, dans ce que vous venez de dire, Florence Kemac, quelque chose d'assez important, d'assez rarement dit en France comme ailleurs sur les comités d'éthique. C'est que pour vous, ce ne sont pas seulement des lieux, disons, de consensus, en tout cas pas au départ. Ce sont d'abord des lieux pour affronter une vraie conflictualité, des enjeux qui sont légitimement conflictuels, disons, dont la dimension d'opposition en démocratie et en politique est nécessaire, au fond, ne pas être écarté comme tel. Quand vous dites, vous êtes presque contente quand vous dites que c'est conflictuel.
Je pense que vous avez raison concernant mon approche de l'éthique ou de la bioéthique, en l'occurrence. Ouais. Effectivement, alors c'est aussi lié peut-être à mon expérience et à mon apprentissage, puisque le comité consultatif de bioéthique de Belgique part du principe que les avis qu'il rend ne doivent pas nécessairement être des avis consensuels. Et donc les avis rendus peuvent être des avis qui sont divisés
des avis
en position 1, position 2, position A, position B, voire parfois position C.
Oui, mais alors justement, j'ai déjà consulté quelques avis du comité belge d'éthique, enfin celui auquel vous participez, Florence Kemax, en tant que philosophe, mais aussi vous êtes pleinement évidemment membre de ce comité, vous représentez donc aussi finalement la société belge. Dans mon souvenir, vous ne dites pas forcément même qu'un des deux avis est majoritaire. Vous dites qu'il y a telle position, telle autre position, ou bien est-ce que on vous demande une décision et un choix, une sorte de vote entre les deux avis opposés sur un sujet qui peut diviser la société?
Quand nous ne nous mettons pas d'accord, effectivement, les avis divergents sont présentés sur un même pied, sur un pied d'égalité. Et ça me semble très important sur le plan démocratique. Ça signifie que le rôle d'un comité d'éthique n'est pas de donner des recommandations fermes et définitives. Nous n'avons pas une position haute, mais nous avons, à mon avis, une mission qui consiste à éclairer un débat qui doit rester public. C'est-à-dire que, il me semble, je ne suis pas sûre que tous mes collègues seraient du même avis et que tous les membres du comité sont du même avis.
C'est Florence Kemax qui parle, c'est pas le comité.
Je parle ici en mon propre nom. L'importance de sa mission, c'est de prendre une question publique, de la travailler, de mettre la chose en problème. Il y a tout un travail qui consiste à problématiser ce avec quoi nous sommes familiers en tant que philosophes. Démonter un problème, ne pas tenir les problèmes comme étant des problèmes tout faits ou des problèmes acquis ou des problèmes déjà donnés,
Accepter la formulation telle qu'elle peut venir du débat social a priori.
Voilà, ou d'un ministre ou d'une autre personne ou d'une autre instance. Ouais. Donc démonter le problème, le remonter et le relivrer à la société de telle manière qu'il puisse permettre au débat de se continuer. C'est-à-dire vraiment d'éclairer la société sur les choix qui sont en jeu ou qui doivent être faits par la suite.
Et puis donc accepter l'idée qu'il y a du conflit, accepter l'idée qu'un problème peut être difficile, peut comporter de la contradiction. Par exemple, je sais que vous avez été rapporteur de plusieurs avis, vous m'avez cité, quand on préparait un peu l'émission, un avis auquel vous avez beaucoup contribué sur l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. D'ailleurs, un sujet que le Comité national d'éthique a traité aussi en France. Et c'est vrai que sur cette question, au fond, d'abord c'est une question moins intuitivement politique que d'autres, alors qu'il y a la procréation assistée, la fin de vie, l'assistance sexuelle aux personnes handicapées, vous vous en êtes saisi et là vous assumez des contradictions, vous dévoilez des enjeux très complexes finalement.
Alors nous avons affronté des contradictions, nous avons surtout affronté des questions très brûlantes parce que derrière l'assistance sexuelle qui est en gros l'offre de services sexuels à des personnes handicapées contre une compensation, pas une rémunération, mais une compensation financière, en tout cas qui implique une transaction financière, voisine évidemment avec la prostitution, laquelle n'est pas illégale en Belgique, mais laquelle ne peut pas être encouragée par aucune institution publique ou financée par les pouvoirs publics.
C'est ça, donc la demande qui vous était adressée, c'était est-il légitime d'avoir recours à des services, enfin assistance de type sexuel en les compensant financièrement et quelle distinction y a-t-il avec la prostitution là ?
Voilà, en fait, c'était ça la question. C'était au départ, l'enjeu vraisemblablement était de savoir si on pouvait détacher cette pratique de la prostitution dans la mesure où la pratique de l'assistance sexuelle, elle devait être soutenue par des institutions publiques de prise en charge des personnes handicapées qui sont donc financées par les pouvoirs publics. Et là, ça posait un problème et ça entrait potentiellement en conflit avec le code pénal. Mais plutôt que de répondre à cette question, nous avons complètement réouvert le problème. En fait, nous avons abandonné la question de la prostitution pour essayer d'entrer dans la question de savoir mais qu'est-ce au juste que l'assistance sexuelle, plutôt que de décider qu'elle était déjà ou toujours déjà dans l'orbe de la prostitution, avec toutes les polarités que celle-ci suscite, en fait.
Oui, c'est très intéressant et précis comme déplacement du problème. Florence Kemax, vous avez considéré que le problème vous arrivait avec une proximité avec un autre problème, la prostitution, et qu'en fait, c'est cette proximité-là qui brouillait les cartes.
Alors, elle brouillait les cartes et elle empêchait, au fond, de penser ce que les gens faisaient déjà sur le terrain, parce que c'était ça, on pourrait dire, le point de départ et l'origine de la question, c'est que certaines personnes hautement spécialisée, hautement qualifiée dans l'assistance aux personnes handicapées en général, mmh. avait déjà commencé à expérimenter cette pratique et d'une manière extrêmement précise, professionnelle, encadrée, etc. Mais en même temps, dans l'absence totale de cadre réglementaire ou de cadre légal pour pouvoir le faire. Et ce que nous avons souhaité faire, c'est effectivement déplacer l'enjeu depuis la question de services sexuels contre rémunération ou compensation financière, vers une autre question qui était celle de la santé des personnes handicapées, mm-hmm. la santé ou le rôle de la vie affective et sexuelle dans la question de la santé des personnes handicapées, comment est-ce que c'était pris en charge depuis déjà pas mal d'années, quel est le statut des personnes handicapées dans notre société aujourd'hui, comment mettons en œuvre les mm-hmm. droits qui leur sont reconnus.
Oui, parce que finalement, le handicap n'est jamais seulement un obstacle physique ou physiologique, c'est aussi un empêchement d'accès à certaines activités reconnues socialement. Donc la question de l'accès au travail, l'accès aux espaces sociaux et finalement l'accès à une vie humaine complète dont la sexualité fait partie.
Alors vous avez tout à fait raison, parce que c'est dans ces termes que nous avons raisonné. Donc dans notre déplacement du problème, on a réexpliqué l'enjeu d'une conception ou d'une approche sociale et anthropologique du problème du handicap, qui est en quelque sorte le noyau depuis lequel l'énoncé des droits de la personne handicapée, même à un niveau international, est pensable. Et partant de là, nous avons posé effectivement la question en termes de droit d'accès. Et c'est là que, aussi, à nouveau, le problème devenait extrêmement sensible, puisque la question nous a été posée de savoir si la sexualité pouvait être considérée comme un droit créance.
Un droit auquel qu'on peut réclamer.
Voilà, un droit ou quelque chose qui doit pouvoir être satisfait. Et nous avons réexpliquer à de nombreuses reprises ce que signifie un droit d'accès, et puis surtout montrer combien les relations affectives et sexuelles ne sont pas des choses qui sont données naturellement et également à tous les individus, mais que c'est aussi quelque chose qui fait l'objet d'une inégale distribution sociale, en fait.
Et on voit très bien, en vous entendant, Florence Kemax, le rôle du philosophe dans ce type d'institution sociale. On va revenir sur l'ensemble du problème du philosophe dans ces institutions et de ces institutions dans nos démocraties. Mais vous avez apporté un morceau de musique pour jalonner cette conversation. On va l'écouter et je dirais après son nom, et vous nous direz pourquoi c'est celui-là que vous avez choisi.
France Culture, Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, philosophe dans la cité, en Europe aujourd'hui. Toujours avec vous, Florence Kemax, qui enseignait à l'Université de Liège en Belgique et qui est membre du comité consultatif de bioéthique de Belgique. On vient d'entendre une chanson qui ne vient pas de Belgique, qui vient du Brésil, Chico Buarque. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi ce soir, Florence Kemax, pour illustrer notre conversation sur l'éthique, sa place dans nos démocraties?
Je l'ai choisie, alors elle est un peu inactuelle puisqu'elle date des années 60. Mais Chico Buarque est une figure très populaire au Brésil qui a été, c'est un chanteur, mais c'est aussi un compositeur, c'est un dramaturge, c'est aussi un écrivain. Et Chico Buarque est une figure associée dans l'esprit brésilien à la résistance à la dictature militaire. Et il m'a semblé que d'abord faire entendre sa voix magnifique aux auditeurs francophones était important, mais surtout dans le contexte contemporain
où le Brésil revit,
est maintenant sous la
risque de répéter ce danger.
Répète sa propre histoire. C'est d'ailleurs ainsi que je pense que beaucoup de Brésiliens l'entendent, à savoir le Brésil n'en a pas fini avec l'esprit de la dictature. Voilà.
Et alors. On peut élargir sans tricher, puisque tout ça est lié. Le titre de la chanson en portugais, en brésilien, mais si je le traduis en français, c'est « Les uns et les autres »,« Umas et outras », comme vous me l'avez indiqué. Finalement, il y a aussi cette idée de coexistence des différences critiques, non pas dans un consensus idéalisant. Quand vous parlez des comités d'éthique, vous dites au contraire, il faut assumer ces différences. Et ce que ne fait pas une dictature, contrairement à ce qu'on croit, une dictature, son plus grand danger, c'est de ne pas accepter la division, c'est de ne pas être assez fort. C'est une faiblesse des dictatures. Elles ne sont pas capables de faire ce que font les démocraties, c'est-à-dire d'accepter cette diversité.
Accepter la diversité, prendre en compte les différences, arriver à donner sens aux différences qui comptent, etc., etc. C'est-à-dire ouvrir effectivement un débat public et un débat public où l'on doit pouvoir déposer effectivement les conflits, les divisions, ne pas les forclore, ne pas les refermer immédiatement. Et puis en même temps aussi, ce sont des scènes, il me semble que les scènes de conflits dans la démocratie ou selon l'idéal démocratique, ce sont quand même des scènes où l'on peut aussi civiliser le conflit, c'est-à-dire l'empêcher de monter aux extrêmes.
D'aboutir à la guerre civile.
Et d'aboutir à la guerre civile, d'avoir à en passer par la violence. Et sous certaines conditions, je dirais que voilà, la réflexivité éthique, si elle n'est pas détachée de ses enjeux politiques, si elle n'est pas détachée de son arrière-plan politique, peut être un lieu pour ça, peut-être un lieu d'activation pour ça.
Alors quand vous dites que l'éthique ne doit pas être détachée de son sens politique, ça veut dire à la fois donc assumer des conflits, traduire politiquement ce qui se présente d'abord peut-être moralement comme une indignation, mais aussi être inscrit dans l'espace politique à travers des institutions. Est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait des comités, vous participez non pas à un seul au niveau national, mais aussi à d'autres à tous les niveaux, vous êtes aussi dans des instances sur la recherche dans votre université, vous êtes dans des instances locales, dans des instance, je crois, une instance aussi dans laquelle vous m'aviez dit que vous êtes en train d'entrer, qui est en train de se créer, mais je crois qu'il porte sur les drogues. Pour vous, instituer l'éthique, c'est pas forcément l'officialiser, la neutraliser, c'est au contraire lui donner place dans le politique.
Je pense que vous avez raison de souligner que l'institutionnalisation de l'éthique, sur le modèle d'ailleurs de la bioéthique ou de l'éthique biomédicale, comporte des dangers, c'est-à-dire il y a un risque, ça ne va pas de soi. À savoir, le premier danger, c'est celui de l'expertise. Vous confisquez le débat public, vous le confiez à des experts, et il faut quand même dire qu'aujourd'hui encore, les comités d'éthique sont confiés à des gens qui sont très savants, à des gens qui sont réputés posséder un très grand savoir.
Mais le savoir, c'est pas si mal, non, ça peut être utile. Pour les questions de médecine, il faut bien quand même quelques médecins.
Oui, effectivement, parce que
même si je comprends très bien le risque dont vous parlez.
Hein. Ouais, je pense que l'éthique a beaucoup besoin de savoir, dans la mesure où ce à quoi elle s'attaque et ce à quoi l'éthique biomédicale s'est quand même attaquée à ses origines dans les années 60 et sans doute en amont dans le contexte des scandales expérimentaux des années 50, etc. L'éthique biomédicale, elle a effectivement besoin de savoir pourquoi, dans la mesure où elle s'attaque à des dispositifs qui sont des dispositifs de savoir-pouvoir extrêmement forts, et dont l'exemple paradigmatique est la médecine, bien évidemment, comme nous l'a enseigné Foucault.
Donc on peut résister que si soi-même on est d'abord un peu compétent, finalement.
Alors on a besoin de beaucoup de savoir, mais la question c'est d'interroger lesquels, parce qu'en fait quand vous donnez les clés des comités d'éthique à ceux qui détiennent déjà le savoir qui est en jeu, ou le pouvoir qui est en jeu, c'est-à-dire le pouvoir du médecin sur les patients, le pouvoir des directeurs ou des recteurs d'université sur leurs chercheurs, etc. Eh bien, est-ce que... alors, à quoi peut encore servir l'éthique, dans la mesure où elle est aux mains de ceux dont il s'agit aussi d'examiner et de réfléchir le travail, les modes d'action.
Exactement. Voilà. D'ouvrir un espace libre par rapport à déjà ces enjeux.
Voilà. Et ça suppose donc des mises en savoir ou des constructions de savoir qui à mon avis devraient être les plus larges possibles. Je pense qu'aujourd'hui on est encore un peu pris en défaut par rapport à ça. Il me semble que trop rarement les comités d'éthique sont ouverts aux patients, que les comités d'éthique sont trop peu souvent ouverts aux usagers par exemple des services de santé, et donc que ces comités gagnerait en fait à s'ouvrir à d'autres publics, dans la mesure où l'éthique ça ne doit pas être la propriété exclusivement de l'expertise, et que les constructions de savoir supposent que nous soyons le plus nombreux possible à penser le plus possible.
Ce qui est une très belle formule, et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, Florence Kemac, c'est qu'il ne s'agit pas d'opposer le savoir des experts à une opinion qui serait ignorante, idéologique dans son ensemble, mais plutôt construire la légitimité de plus d'un savoir, le savoir du patient lui-même, le savoir de tous les soignants, le savoir de parce que on parle de médecine, ça ne se réduit pas aux médecins, il y a toutes les pratiques, toutes les expériences finalement à qui on peut donner l'occasion de devenir un savoir par ces institutions finalement, oui. Et de ne pas s'opposer comme plainte ou comme idéologie à un savoir unique et dominant.
Oui. Si nous avons affaire à des dispositif de savoir-pouvoir, je crois que le concept reste très très
là, heuristique aujourd'hui. Vous parlez de Michel Foucault, c'est la langue
du concept
Michel
que
Foucault,
nous allait léguer Michel Foucault.
C'est là qu'on voit en quoi la philosophie vous inspire jusque dans votre pratique sociale.
Et que nous faisons appel à des savoirs et que nous avons besoin de construction de savoir pour répondre à des problèmes éthiques, cela signifie que nous avons besoin aussi de contre-savoirs, c'est-à-dire de ne pas seulement puiser dans les savoirs établis les moyens de résister aux excès de pouvoir, par exemple de la médecine, ou de la gouvernance de la recherche, ou ce genre de choses, ou de l'évaluation de la recherche, par exemple. Et c'est pourquoi, à mon avis, il y a une dimension de, on va dire, empirique et d'enquête qui est indissociable de la réflexion éthique. La réflexion éthique est souvent assimilée à quelque chose qui relève soit du fort intérieur, soit de la confrontation des opinions ou des convictions, comme si les convictions, les opinions, les positionnements idéologiques étaient des choses toutes faites et que l'on possédait par devers soi en fonction de la position qu'on occupe dans la société. Alors moi, je pense pas du tout, et je pense que ce sont des choses qui sont des constructions, et que dans la mesure où elles sont des constructions, on doit utiliser ce processus pour les élaborer, les déconstruire et les réélaborer. Et ça suppose de la mise en savoir aussi.
Et est-ce que ça, c'est le rôle un peu transversal du philosophe, Florence Kemac? Donc vous êtes chercheuse en philosophie, vous enseignez la philosophie en Belgique. D'ailleurs, les chercheurs ont des charges d'enseignement plus souvent qu'en France encore. Est-ce que pour vous, quand vous êtes dans un comité, quand quelqu'un, par exemple, n'ose pas prendre la parole parce que sa parole n'est pas légitime, est-ce que vous concevez votre rôle comme l'aidant à formuler cette opinion, ce sentiment, cette urgence, de manière à ce qu'elle soit audible, partageable, discutable? Est-ce que c'est cela, faire du savoir, mettre en savoir? Et finalement, on entend dans ce que vous dites que mettre en éthique, c'est ce que vous avez dit, ça n'est pas seulement qualifier moralement de bien ou de mal, mais mettre en éthique, c'est aussi mettre en discussion, mettre en partage.
Il me semble, Frédéric Worms, que vous avez dit quelque chose de très important là. Je ne l'aurais pas formulé moi-même, mais qui relève d'une pratique de l'attention. Et je pense que les philosophes peuvent servir à ça, mais ils sont pas les seuls, en fait. Ça dépend, ça, c'est une affaire.
Ou alors tout le monde est un peu philosophe. Soit on dit qu'ils sont pas les seuls, soit on dit que tout le monde devrait être un peu philosophe, que c'est pas réservé aux philosophes de profession, disons.
C'est pas réservé aux philosophes, mais c'est quelque chose que nous sommes entraînés, je pense, à cultiver. Mmh. Et cette pratique de l'attention signifie accorder son attention aussi au savoir mineur, à ce qui ne peut pas s'exprimer, à ce qui n'a pas encore trouvé sa formulation explicite ou claire. Et comme nous sommes particulièrement entraînés à ça, moi je parlais tout à l'heure de notre travail, je crois que vous et moi on est d'accord là-dessus, que la philosophie, une bonne partie de son travail consiste à identifier les problèmes, élaborer les problèmes, déconstruire et réélaborer les problèmes autrement. C'est dans ce travail-là que la philosophie fabrique des concepts, etc. C'est ce qui fait le sens des concepts, au fond. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas seulement réservé à l'exégèse philosophique, à l'étude des textes ou à l'histoire de la philosophie. C'est quelque chose qui a une fonction tout à fait nécessaire
dans la vie même,
tout court. Et dans toutes les situations qui sont des situations d'argumentation, d'interlocution, de partage de la parole et de construction de savoir, lesquelles sont extrêmement nombreuses dans des sociétés comme les nôtres.
Alors, dans des sociétés comme les nôtres, Florence Kaimax, est-ce que vous êtes inquiète sur la possibilité qui reste pour des espaces de ce genre, pour des pratiques, des institutions de ce genre? Est-ce que le fait d'assumer la conflictualité, d'assumer la construction d'un dialogue, d'assumer le trouble, est encore possible dans nos sociétés? Vous avez co-dirigé avec Julien Pierron et Vinciane Després un livre sur l'éthique, je crois, animale, en fait, qui s'appelle « Habiter le trouble », chez un des éditeurs qui traite beaucoup d'éthique environnementale, justement, les éditions du Dehors, sur l'œuvre de Donna Haraway. Est-ce que, pour vous, « Habiter le trouble », c'est encore audible aujourd'hui? Est-ce que nos sociétés sont encore capables de supporter le trouble sans croire que le trouble, c'est la panique, c'est le désastre, mais au contraire que la maîtrise de ce trouble est notre devoir politique?
Le sens du titre de l'ouvrage que nous avons donné à cet ouvrage, « Habiter le trouble », est un écho à la proposition que fait Donna Haraway dans l'ouvrage correspondant en anglais qui s'appelle « Staying with the Trouble ». C'est un ouvrage, nous publions un ouvrage collectif sur le travail récent qu'elle a effectué dans ce livre.
Qu'elle a beaucoup travaillé sur le croisement de l'homme et de la machine, sur le...
Voilà, sur le cyborg, elle a fait des études sur les primates au départ, voilà. sur l'histoire de la primatologie anglo-saxonne, américaine plus exactement. Ensuite, elle a écrit cet essai très fameux sur le cyborg. Ensuite, elle a écrit, elle a fait des travaux sur ce qu'elle appelle les espèces compagnes. Et l'ouvrage qui s'intitule « Staying with the Trouble » est vraiment une invitation, à mon avis, éthico-politique à effectivement habiter le trouble. C'est-à-dire la mission, on pourrait dire la revendication selon laquelle les philosophes, les militants, les féministes en particulier, parce que elle appartient à cette tradition, ont quelque chose comme un devoir politique de rester dans le trouble. Et ça, je pense que c'est un combat, je dirais, très ancien et un combat de tous les jours. C'est-à-dire que nous avons affaire constamment à des situations dans lesquelles le conflit est refoulé, mm-hmm. Les problèmes d'inégalité sociale, la stratification sociale est quelque chose de refoulé, de mise à distance, de difficile à penser, et qu'il fait partie du travail politique de commencer par réouvrir ça.
Est-ce que vous pensez, Florence Kaimax, qu'on ne supporte plus que les choses n'aillent pas de soi, qu'il y ait des inégalités, qu'il y ait des différences? On voudrait un monde tellement parfait que la différence devient insupportable et on devient soi-même terrifiant, finalement, en refusant le trouble. Est-ce que c'est pour vous, en Europe aujourd'hui, quelque chose qui vous inquiète particulièrement? Est-ce que vous sentez une montée de ça, ou est-ce que vous sentez que la réflexion à travers des institutions qui maîtrisent justement la différence et les perturbations peuvent encore résister? Est-ce que c'est pour vous un contexte qui importe dans votre intervention politique?
Je pense qu'en réalité, on n'est pas dans un contexte de consensus ou de faux consensus, on est dans un contexte extrêmement troublé, c'est-à-dire qu'il y a de la conflictualité très forte qui est en train de s'affirmer et qui se lie dans les recompositions politiques, notamment en Europe centrale, en Italie, maintenant au Brésil, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est un indice d'une conflictualité sociale extrêmement forte, et tout le monde sait à quoi c'est lié, à l'inégalité. Qui va croissant dans la société globalisée, dans les sociétés globalisées, dans les sociétés qui sont entièrement subordonnées à
Mais comme vous disiez vous-même, c'est une conflictualité qui maintenant n'arrive plus à s'exprimer comme telle, qui passe par la violence parce qu'elle n'arrive plus à justement se traduire dans un discours assumé.
Alors je pense qu'elle est en train de monter à un niveau qui ressemble à quelque chose comme de la violence, même une brutalité finalement à l'égard des institutions politiques elles-mêmes qu'il est nécessaire de penser et de savoir jusqu'où nous pouvons la tolérer, enfin comment y résister, et que en même temps ceux qui prennent le pouvoir, comme en Italie ou dans d'autres pays où on observe des dynamiques similaires, sont en fait décidés effectivement à passer outre le trouble. C'est-à-dire, nous avons des problèmes et nous allons les résoudre.
Rien ne les perturbe plus, ces gens-là.
Et ils avancent en ligne droite.
C'est une violence, mais pas un trouble, justement. Alors qu'il y a un trouble qui peut être non-violent.
Exactement.
Qui est même la condition de dépassement de la violence.
Exactement.
Être un peu inquiet, c'est pas...
Être un peu inquiet, accepter une certaine incertitude... Et en même temps, se résoudre à prendre des décisions, parce que je pense qu'on est dans une époque où nous avons besoin de prendre des décisions claires concernant l'avenir de nos sociétés.
Prendre des décisions, est-ce que c'est cela aussi le rôle de l'éthique ? Florence Kemac, je suis très frappé par ce que vous venez de dire. Vous avez dit que le comité d'éthique belge ne tranche pas forcément, on peut opposer des avis sans dire absolument ce qu'il faut faire. Donc il est une instance intermédiaire finalement. Mais après, il y a la démocratie. Et elle doit trancher, finalement. On n'est pas non plus tout le temps dans le conseil, le consultatif. On remet ça au législateur. On a besoin d'institutions fortes.
On a besoin d'institutions fortes, et je pense qu'on a besoin d'une clairvoyance sur les situations sociales et politiques qui sont les nôtres. Je parlais de l'aggravation des inégalités, du décrochage entre le monde des élites et, disons, des gens ordinaires, des dégâts qui sont faits sur le monde du travail, des dégâts environnementaux que tout le monde a sous les yeux et dont nous savons l'origine ou la cause, disons, et qui est finalement la même origine, la même cause que les dégâts que nous voyons sur le monde du travail, c'est-à-dire des pans entiers de la société, de gens qui sont laissés pour compte, et que face à ces problèmes-là, on a effectivement des orientations claires qui sont à prendre. Et là, on n'est plus, je crois, dans la consultation, on est dans des processus qui exigent des positionnements qui sont stratégiques, je crois.
Et là, c'est plus dans les comités d'éthique, Florence Kemac. Est-ce que c'est... Vous avez aussi l'enseignement, évidemment. C'est pas à ça que vous faites référence. Il y a d'autres types d'actions auxquelles vous pensez? Est-ce qu'il faut s'engager politiquement, construire des modes de représentation, des modes peut-être européens, d'ailleurs transnationaux? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez aussi?
C'est une chose à laquelle, je pense, beaucoup de philosophes réfléchissent, mais aussi de chercheurs en sciences politiques, en sociologie. Et je pense qu'il y a à la fois une très grande évidence sur les problèmes que nous avons à affronter. Je pense en particulier aux transformations profondes du monde du travail, en partie liées d'ailleurs aux nouvelles technologies, aux technologies numériques et autres. Et puis de l'autre côté, la crise, disons, environnementale. Je pense qu'on est en train d'arriver à une espèce de consensus savant sur le fait que ça, ce sont les deux urgences et qu'elles doivent être pensées en même temps. Mais nous hésitons beaucoup, me semble-t-il, dans nos milieux, dans nos univers, à la fois savants et engagés en même temps, sur les modes d'action. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit être du côté des mouvements? Est-ce qu'on doit entrer dans des institutions plus feutrées comme les comités d'éthique? Est-ce que nous devons entrer dans les partis politiques? C'est-à-dire qui est encore une autre sphère, qui a d'autres règles et d'autres modes de fonctionnement. Et comment pouvons-nous peut-être articuler ces différentes sphères? Je pense que ça, c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut plus s'en remettre simplement au monde politique tout seul, puisque lui-même est porté par une société qui est très riche, où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de prises de position, il y a beaucoup de savoirs qui sont en jeu. Comment arriver à faire communiquer ces mondes-là. Je pense que c'est un enjeu.
Vous venez de résumer parfaitement, il me semble, Florence Kaimax, la question du philosophe dans la cité, c'est-à-dire du philosophe qui part de la vie, qui va s'engager, mais qui passe par le savoir et dont la société aussi a besoin, notamment dans ce moment et dans ce lieu. Je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup, Florence Kaimax.
Merci, Frédéric Burns.
Matière à penser, c'était notre rencontre avec une philosophe dans la cité, Florence Kaimax, venue de Liège en Belgique, avec aussi Grassa, Cédric Chatelus, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. À très bientôt.